Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
On le connaissait pour son travail sur les mafias, on le connaît désormais comme une figure d'opposition au gouvernement post-fasciste italien de Giorgia Meloni, arrivé au pouvoir il y a près de 100 jours. Bonjour Roberto Saviano.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste, vous vous intéressez aux mafias, à la question du crime organisé. En 2006, vous avez publié l'ouvrage Gomorra qui révèle et cartographie l'étendue des activités de la mafia napolitaine, la Camorra. Vous avez été victime de menaces de mort, notamment de la part du clan Casalesi. Vous vivez sous protection policière depuis octobre 2006. Vous êtes par ailleurs engagé dans un affrontement juridique avec les dirigeants politiques italiens, notamment Giorgia Meloni et Matteo Salvini, pour avoir dénoncé la politique migratoire de ces derniers. Aujourd'hui, vous publiez « Crie-le ». 30 portraits pour un monde engagé aux éditions Gallimard. Je dois dire, une galerie de portraits extrêmement hétéroclite, puisqu'on y trouve aussi bien des gens comme Martin Luther King, Robert Capa, j'en ai parlé il y a quelques instants, Anna Politkovskaya, la journaliste russe qui a été assassinée par Vladimir Poutine, autrement dit des personnes qu'on qualifiera aisément de héros, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins, et... En l'occurrence, il y a au début de ce livre un portrait qui m'a étonné de votre part, celui de Carl Schmitt. Pourquoi avoir décidé de prendre ce portrait, malgré d'ailleurs l'invite de vos amis qui vous disaient « Mais pourquoi vous intéressez-vous à ce théoricien nazi du droit ?» Pourquoi Carl Schmitt est-il intéressant pour vous, selon vous ?
Perché Carl Schmitt svela il grande segreto della politica.
Rivela il grande segreto della politica.
Che hai bisogno di un nemico.
Il faut un ennemi.
E la politica contemporanea ci racconta questo.
La politica contemporanea nous lo racconta aussi.
Cercare continuamente un nemico.
Chercher continuellement un ennemi.
Scegli il miglior nemico, sceglierai la più facile vittoria.
Choisi le meilleur ennemi et tu vas choisir la meilleure des victoires.
E per le destre europee e non
solo.
E per
le droite européenne, mais pas
il
que.
Il miglior nemico in questo momento
è l'immigrato. En ce moment est l'immigré.
Mais au sein des politiques, il y a l'idée qui est effectivement une idée de Schmitt selon laquelle il y aurait une seule distinction qui compte, celle de l'ami et de l'ennemi. Or, la politique italienne, c'est justement la preuve qu'il n'y a pas véritablement d'amis et d'ennemis éternels, puisque finalement, toutes les configurations politiques se prêtent à créer des coalitions. Est-ce que ça n'est pas le signe que Schmitt s'est trompé, qu'il parlait finalement d'une politique, mais de la politique nazie, Roberto Saviano ?
Ma in qualche modo l'Italia, la politica italiana dimostra che i nemici sono sostituibili.
Che on peut changer les ennemis.
Serve il nemico più utile.
On a besoin d'un ennemi.
Al momento.
Le plus utile à un moment donné.
Per esempio questa la destra che in questo momento
esempio,
è al governo.
La droite attuale.
Era la migliore amica di Putin.
La meilleure amie de Poutine.
E d'improvviso adesso dice di essere la migliore amica
dell'Europa.
E maintenant
elle dit d'être la meilleure amie de l'OTAN et de l'Europe.
Serve cambiare il nemico al momento giusto.
Il faut savoir changer l'ennemi au bon moment.
E scegliere l'amico al momento giusto.
E choisir le bon ami au bon moment aussi.
In Italia c'è un governo di estrema destra.
In Italia il y a un gouvernement d'extrême droite.
Che deve preoccupare tutta Europa.
Qui doit inquiéter toute l'Europe.
Siamo molto più vicini all'Ungheria.
Nous sommes beaucoup plus proches de la Hongrie.
Che alle democrazie europee.
Che des démocraties françaises ou allemandes.
Et la mia paura è che l'Italia di oggi sia il futuro della Francia.
J'ai peur que l'Italie d'aujourd'hui soit l'avenir de la France.
Se non si impegna a denunciare quello che sta succedendo in Italia.
Si elle ne prend pas l'effort de dénoncer ce qui se passe actuellement en Italie.
Bon, vous n'êtes pas le seul, Roberto Saviano, à avoir ce type d'inquiétude, mais précisément, lorsqu'on voit comment le gouvernement post-fasciste italien se comportait, certains en France, j'ai par exemple le Figaro sous les yeux, lorsque Giorgia Meloni a été élue, quelques semaines après son élection, le Figaro a fait un portrait d'elle, disant qu'elle avait réalisé un sans-faute. C'est un peu comme si finalement l'on redoutait que l'extrême droite ou les post-fascistes digèrent la démocratie. Et finalement, on a parfois l'impression en France, certains ont cette impression, que c'est l'inverse qui s'est produit. C'est plutôt la démocratie qui a réussi à avaler les post-fascistes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La questione è complessa, ma l'ha risolta, Giorgia Meloni l'ha risolta in questo modo.
Giorgia Meloni l'ha risolta così.
Ha un doppio binario. In Europa parla là, in maniera democratica e liberale.
In Europa elle parle de façon démocratique, libérale.
Per dare garanzia e diciamo
di essere
aiutata
de economicamente
dall'Europa.
Pour être aidé économiquement par l'Europe.
In Italia invece
in Italie,
parla in maniera nazionalista.
Elle parle de façon nationaliste et souverainiste.
Ha un doppio binario.
Ah donc, elle joue sur ces deux tableaux.
Per esempio, il primo decreto che ha fatto
il governo italiano. Par exemple, le premier décret du gouvernement italien
è incredibilmente ridicolo.
Est incroyablement ridicule.
Cioè, il decreto contro i rave party.
Un décret contre les rave parties.
E hanno cercato di coprire un decreto che
Ils
vieta.
Ils ont essayé d'avoir un décret
il libero assemblamento.
Interdise.
Di più di 30 persone.
De se rassembler librement quand on est plus de 30 personnes.
Coprendolo come dire come un decreto contro le feste clandestine.
Décret contre les fêtes clandestines.
Ecco, questo per esempio è un comportamento tipicamente sovranista.
Comportement parfaitement souverainiste.
Quando invece è a Bruxelles?
Quand elle est à Bruxelles par contre?
L'atteggiamento è di vicinanza ai résistants ucraini.
Se comporte différemment, elle est proche aux résistants ukrainiens.
All'unità europea?
À l'unité européenne.
Al rispetto dei diritti umani.
Au respect des droits de l'homme.
Quindi un doppio livello.
Chiaramente c'est deux tableaux.
E ecco perché è così diciamo complicato
c'est pour
comprendere.
Ça que c'est très compliqué de comprendre
la transformation populiste
cette
de la
transformation populiste de Meloni.
Perché non c'è una trasformazione.
Parce qu'il n'y a pas une de transformation.
Oui, parce que j'ai le plus grand respect pour les rêves partis, bien sûr, mais si vous me demandez de choisir entre, par exemple, le soutien à un pays attaqué, entre donc des mesures qui seraient des mesures extrêmement dures contre les migrants, je préfère encore un parti qui s'en prend injustement aux rêves partis plutôt que des post-fascistes qui appliqueraient leur programme intégral. Il faut forcément des symboles en politique, or on entend Meloni eh bien, rejoindre les alliés de l'Ukraine, considérer finalement que la sortie de l'Europe n'est plus du tout dans son programme. Bref, quelqu'un de raisonnable. C'est comme ça qu'elle est parfois perçue en France.
Mais en réalité, durant la campagne électorale, elle a attaqué l'Europe en tous les mondes.
Lors de sa campagne électorale, elle a attaqué l'Europe.
Et parlava di immigrazione come sostituzione.
Elle parlait de l'immigration comme un remplacement racial
europeo.
Du continent européen.
Ha attaccato le ONG che salvano vite
elle
in mare.
Elle a attaqué les ONG qui sauvent des vies en mer.
Trafficanti.
En les traitant de trafiquants.
Ha parlato pubblicamente di avere un'allergia verso la Germania.
Allergique à l'Allemagne.
Et quindi tutta la sua propaganda politica è stata
sa
una propaganda,
propaganda politique
di odio, di intolleranza.
C'est une propagande de haine, d'intolérance, anti-européiste.
E ora il doppio passo le serve alla Meloni ed è questo il grande rischio
è utile per Meloni e c'est d'ailleurs là
per ottenere da un lato il denaro
afin d'obtenir d'un côté l'argent
con l'Europa e dall'altro
de la part de l'Europe,
conservare il consenso della sua base politica
garde aussi un consensus de sa base politique.
Ecco perché loro utilizzano poi gli intellettuali
c'est pour ça qu'ils utilisent les intellectuels comme objectif
come nemici
comme ennemi
e hanno necessità di un'opposizione che in Italia
ils ont besoin d'avoir une opposition très fragile en Italie en ce moment.
Et quindi diciamo costruiscono il nemico.
Donc ils vont construire un ennemi
intellettuale che li critica.
L'intellectuel qui est critique envers eux.
Roberto Saviano, dans le livre que vous publiez Crie-le 30 portraits pour un monde engagé aux éditions Gallimard, il y a notamment des journalistes héros, des héros du journalisme, par exemple Jamal Khashoggi, qui est donc ce journaliste saoudien qui a été assassiné au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Je parlais il y a quelques instants de Robert Capal, photojournaliste qui est mort durant la guerre d'Indochine pour couvrir donc cet événement, ou encore Anna Politkovskaya. Pourquoi avoir choisi ces journalistes qui apparaissent aujourd'hui comme des héros?
Perché hanno messo il loro corpo nella ricerca della verità.
Ils ont mis leur corps dans la recherche de la vérité.
E quella è la grande differenza.
C'est là toute la différence.
Cosa sei disposto a perdere per mostrare la verità?
Pour montrer la vérité.
Cosa sei disposto a perdere quando scegli?
Est-ce que tu es prêt à perdre quand tu choisis ton côté?
E Anna Politkovskaya per tutta la vita è stata delegittimata.
Per tutta la vita è stata delegittimata.
E la morte può sembrare assurdo, ma è la cosa, diciamo,
la mort, cela peut sembler
che
absurde,
lei
mais
aveva messo in conto la mort, e considerava meno grave.
Per Anna c'était moins grave.
Perché lei diceva, la morte fermerà il mio corpo, la delegittimazione ferma le mie parole.
La mort arrêtera mon corps, la délégitimation arrêtera mes mots.
e ha vissuto questo anche per esempio Daphne Caruana Galizia
e Galizia aussi
hanno vissuto sistematicamente la delegittimazione
vécu cette délégitimation
che oggi è lo strumento primo attraverso cui si fermano le inchieste le analisi
utilisé pour arrêter les enquêtes les analyses.
E nel caso di Robert Capa,
son incroyable vie,
lui utilizza un concetto bellissimo.
Utilise un concept magnifique.
Lui voleva che le foto fossero leggermente fuori fuoco.
Il voulait que les photos ne soient pas complètement centrées, un peu
Perché se sono a fuoco,
tu es trop loin.
Se sono completamente sfocate, sei troppo vicino.
Se sono pas du tout complètement flou, on est trop proche.
Devi essere sempre leggermente fuori fuoco verso la verità.
Toujours légèrement un peu flou quand on parle de la vérité, car on est proche des choses.
Mais justement, Roberto Saviano, bon, évidemment, on fait le parallèle entre ces villas et la vôtre, puisque vous vivez sous protection. Est-ce que ça mérite, est-ce que le journalisme mérite qu'on risque sa vie et... J'ai presque envie de vous dire, voilà, si c'était à refaire, est-ce que vous ne voudriez pas travailler sur autre chose que les mafias?
È una domanda interessante perché...
Sono très intéressante.
Io credo che non ci si ponga il tema se merita o no il giornalismo.
Car on ne se pose pas cette question si quando, on mérite ou pas
quando,
le journalisme.
Quando si sceglie questo lo si fa per un'ossessione.
Quand on choisit le journalisme, c'est une obsession.
E lo fai perché diventa una questione personale.
Ça devient quelque chose de personnel.
E io non mi pongo più la domanda se quello che faccio è utile.
Si ce que je fais est utile.
Se arriverà davvero alle persone.
Si il atteindra vraiment toutes les personnes.
Se i miei libri arriveranno in mano a tante persone.
I libri sono lus par de nombreuses personnes.
Personalmente io lo faccio per vendetta.
Personnellement, je le fais par vengeance.
La vendetta di chi mi voleva fermare.
La vengeance envers ceux qui voulaient m'arrêter.
Di chi ha cercato in tutti i modi
ceux
di farmi
essayé
stare zitto.
De me taire.
E quindi so che, come dire, è anche un atteggiamento mio spesso
non,
irresponsabile verso me stesso.
C'è un'attitudine un po' irresponsabile envers moi-même.
Avrei dovuto già molto tempo fa risparmiare.
J'aurais dû il y a bien longtemps éviter tout ça.
Ma la mia non è un'ambizione che in genere hanno i miei colleghi, cioè di vendere molto,
pas,
avere premi.
La mia non è pas une ambition vendre beaucoup, recevoir des prix.
La mia ambizione è qualcosa di, diciamo, quasi più inconfessabile.
Mon ambition è très dur à
farla confesser. Pagare a chi mi fa vivere così.
Me venger envers ceux qui m'obligent à vivre ainsi.
Bon, il y a des journalistes en France qui vivent comme vous vivez. Je pense notamment à certains journalistes de Charlie Hebdo. Il y en a d'autres en Russie qui, hélas, n'ont même pas de protection. En Biélorussie, bref, un peu partout. C'est une drôle de profession, cette profession où finalement on se bat, mais les armes que l'on a, Roberto Saviano, sont... inférieure à celle de l'adversaire?
Sì, perché diciamo la possibilità di avere una viralità contro di te è enorme.
Oui, car la possibilità di avere cette violence envers soi è enorme.
Quindi, diciamo, penso ai giornalisti bielorussi.
Penso ai giornalisti bielorussi.
Oppure i turchi.
O in Turchia.
Siriani.
Siri.
Vivono... iraniani vivono spesso con l'unica possibilità di avere la protezione dei loro lettori.
Avec la seule protection des lecteurs.
E quando tu vieni poi spesso questi giornalisti vengono processati per evasione fiscale.
Subissent des procès pour évasion fiscale.
C'è un mio amico scrittore turco, Ahmet Altan, che viene addirittura condannato alla prigione in Turchia.
Condanné à la prison en Turchie.
Perché ha fatto un elogio subliminale al golpe.
Car il a fait un éloge subliminal au coup d'État.
L'accusa assurda.
Ça, c'est l'accusation dont il fait face, c'est absurde.
Quindi sì, sai che è una battaglia impari.
Oui, c'est une lutte impaire.
Depuis que vous avez démarré votre combat contre la mafia, Roberto Saviano, qu'est-ce qui a changé en Italie?
È cambiato innanzitutto la percezione del fenomeno.
La percezione del fenomeno.
Che veniva considerato solo meridionale.
Considera che c'è un fenomeno che tocca unicamente il sud.
È cambiato anche la percezione del problema, nel senso
che oggi sono
considerati chiaramente degli imprenditori.
Car aujourd'hui ce sont des entrepreneurs.
Non dei banditi.
Non sono più dei banditi.
E quindi questo è molto, è stato molto importante nella lotta alla mafia.
C'est très important pour lutter contre la mafia.
Quello che non è accaduto in Europa.
Ce qui n'est pas arrivé en Europe.
In Europa la percezione ancora
en Europe,
delle ancora organizzazioni criminali,
perception des organisations criminelles comme des structures périphériques.
Bande che vivono soltanto di droga.
Des bandes qui vivent uniquement de la
invece,
de l'argent de la drogue.
Ricordo che sono l'economia più forte del continente.
Je veux le souligner, c'est l'économie la plus forte du continent.
Mais là, entrepreneur, est-ce que ça veut dire qu'ils se sont normalisés, puisque on a le droit évidemment d'être entrepreneur dans ces conditions, on ne peut plus véritablement parler de mafia, Roberto Saviano?
È interessante, si potrebbe dire che le mafie sono solo un momento.
On pourrait dire que les mafias sont
un momento dell'attività dell'imprenditore mafioso.
Un moment de l'activité de l'entrepreneur mafieux.
La violenza è solo un piccolo segmento.
La violence n'est qu'une petite partie.
La maggior parte del tempo di un'organizzazione
criminale. La plupart du temps.
E lo investe nel riciclare del denaro.
Criminale l'utilise pour recycler, pour blanchir de l'argent.
Nel vincere la battaglia economica.
Pour gagner la guerre économique.
Bisogna immaginare come se questi gruppi avessero la possibilità di fare edilizia, trasporto
dei
rifiuti,
BTP,
distribuzione alimentari,
la distribution de
tutto questo lo svolgono con i soldi del narcotraffico.
Avec l'argent de la drogue.
E quindi riescono a vincere la competizione.
Donc, ils peuvent gagner contre leur
compétition. Con i loro concorrenti.
Roberto Saviano, vous publiez Crie-le, 30 portraits pour un monde engagé aux éditions Gallimard. 30 portraits de héros. Il y a beaucoup de héros. Martin Luther King, par exemple. Il y a aussi des anti-héros. Là aussi, on en reparlera. Joseph Goebbels. Je dois dire également que Gallimard publie une bande dessinée tirée de votre œuvre Je suis toujours vivant avec Assaf Hanouka. On se retrouve dans une vingtaine de minutes car il est 8h sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
On le connaissait pour son travail sur les mafias, on le connaît désormais comme une figure d'opposition du gouvernement post-fasciste italien Giorgia Meloni, arrivé au pouvoir il y a près de 100 jours. Roberto Saviano, vous publiez Crie-le, 30 portraits pour un monde engagé aux éditions Gallimard, et puis on trouve également l'adaptation de Gomorra, Je suis toujours vivant, bande dessinée, toujours chez Gallimard, avec Assaf Hanouka. Peut-être une réaction, on a évoqué la politique italienne, votre regard, vous êtes considéré comme un opposant en France. Qu'observez-vous en matière de politique? Quel regard portez-vous sur la scène politique française, Roberto Saviano?
Ah, mi colpisce vedere la crisi della sinistra qui in Francia.
Je suis étonné de voir que la crise de la gauche en France,
del pensiero socialista democratico,
de la pensée socialiste démocratique,
che è identica in questo senso alla situazione italiana.
Alla situazione italiana.
E dall'altro lato la Francia ha ancora un fervore di protesta.
Ferveur pour ce qui est des ce qui est de protester
che non esiste più in Italia.
Che non esiste più in Italia.
Non so se questo in questo momento sia un nutrimento per la democrazia.
Non so se è
un problema.
Un problema o all'inverso una nourriture per la democrazia.
Però certamente la società civile francese
la società francese
è ancora molto attiva.
È ancora très active.
E questo lo considero un elemento positivo.
Et c'est quelque chose de positif selon moi.
Il y a en France un rôle qui est le rôle des intellectuels, qui est considéré comme étant essentiel. Peut-être est-il mythifié avec, bien sûr, une figure tutélaire dont vous parlez, Roberto Saviano. Il était d'ailleurs d'origine italienne. Émile Zola, qu'est-ce qu'il représente pour vous?
In questi mesi lo tengo molto vicino.
Ces derniers mois, je le garde très proche.
Ho sempre letto i suoi testi.
Toujours lu ses textes.
È l'intellettuale per me in assoluto più importante.
Selon moi, le plus important.
Sono stato anche ad omaggiarlo sulla sua tomba.
J'ai même été sur sa tombe, lui rendra un hommage cet été.
È un uomo che ha perso tutto.
C'est un homme qui a tout perdu
per difendere un innocente.
Pour défendre un innocent.
Dreyfus. Che verso cui lui non aveva una simpatia ideologica.
Vers lequel n'avait pas de rapprochement idéologique.
Non lo considerava un uomo, diciamo, verso cui poteva avere un sentimento di amicizia.
Un homme avec qui il aurait pu devenir ami.
Ma stava subendo un'ingiustizia.
Mais il était en train de vivre une injustice.
Un'ingiustizia che avrebbe compromesso.
Une injustice qui aurait compromis.
La giustizia, la verità in Francia.
La vérité.
E per farlo ha perso tutto.
Et donc il a tout perdu.
La serenità, il denaro,
l'argent, la tranquillité, le travail.
La Francia è l'ultimo paese in cui gli intellettuali sono ancora presi sul serio.
Dans lequel les intellectuels sont encore pris au sérieux.
Ovunque ormai gli scrittori
partout les écrivains
sont considérati quasi come considérés des intrattenitori.
Comme des personnes qui font de l'amusement.
E in qualche modo questa cosa rende la Francia il paese ideale.
Cela rend la France le pays idéal pour les intellectuels.
E se è così lo si deve a Zola.
E si c'est le cas, on le doit à Zola.
Il primo scrittore che ha preso posizione
pubblica. Premier écrivain qui a pris une position publique dans l'histoire.
Mais alors, quand vous dites qu'il est proche de vous, Zola, que vous l'avez toujours avec vous, quels sont les textes de Zola que vous aimez? Est-ce que c'est aussi le Zola romancier ou bien c'est principalement le journaliste engagé dans la sphère publique?
Beh, certamente, diciamo, da ragazzo mi sono formato su.
Oui, j'ai été formé quand j'étais plus jeune.
Zola romanziere.
Avec les romans de Zola.
Ovviamente, diciamo, Germinal era quando avevo 16 anni.
Germinal, quand j'avais 16 ans.
Una specie di manifesto.
C'était un manifeste pour moi.
Ma è proprio come dici, cioè
ce que vous dites.
Zola journaliste,
Zola journaliste, reporter, voyageur que j'aime énormément.
Ho scoperto nelle lettere che Zola scrive al suo editore.
Dans les lettres que Zola écrit à son éditeur français.
Dall'Inghilterra.
Depuis l'Angleterre.
Per me, per esempio, sono spazi di coraggio.
Des lettres de courage.
Imparo.
Et j'apprends
da lui come
j'apprends de Zola
supportare comment la pressione delle balle, delle menzogne,
tenir à la pression des mensonges, supporter cette pression des mensonges.
C'è un momento in cui per esempio Zola scrive al suo editore che
Zola
non ne può più,
vuole
solo pace,
qu'il en a marre, il ne veut que la paix.
E riesce a fare un lavoro su di sé per concentrarsi e continuare a scrivere.
Sur soi-même pour pouvoir continuer à écrire.
E la cosa che, diciamo, mi ha stupito è che Zola aveva fastidio nel parlare pubblicamente.
Zola n'aimait pas parler en public.
Quando è al processo, lui sente di non avere un buon eloquio.
Quand il est au procès, il se rend compte qu'il n'a pas une bonne éloquence.
E quindi i giornalisti vengono delusi dalle risposte che lui dà.
Sont déçus des réponses de Zola.
E un'altra cosa che di Zola mi ha stupito umanamente.
Quelque chose qui m'a étonné aussi, mais humainement.
Lui non sopportava parlare inglese come me.
Zola ne peut pas, n'aimait pas parler anglais, tout comme moi.
E diceva: io sono un uomo del sud.
Je suis un homme du sud.
Non sono, non ho il talento per altre lingue.
Je n'ai pas le talent pour d'autres langues autres que la mienne.
E quindi, diciamo, ormai cerco di imparare a sopravvivere alle pressioni.
D'apprendre à surmonter toutes les pressions, Zola, cherchant donc des maîtres. Et Zola fait partie de ceci.
Et on va passer d'un extrême à l'autre. Dans cette galerie de portraits, et il n'y a pas que des gens comme Zola, il y a par exemple quelqu'un comme Joseph Goebbels. Qu'est-ce qui vous attire dans cette figure-là? Pourquoi avoir décidé donc de consacrer un texte à cette figure qui, selon vous, Roberto Saviano, est plus complexe qu'on aurait pu le croire?
Parce que Goebbels est comme si c'était l'antesignano de l'odio sui social.
C'est vraiment la haine sur les réseaux sociaux.
È l'uomo che teorizza meglio di chiunque altro la propaganda.
Qui théorise le mieux la propagande.
Attacca più che poi.
Attacca autant que
qualcosa
possible.
Resterà attaccato al tuo obiettivo.
Attaché à ton objectif.
E in qualche modo quindi Goebbels è il primo che teorizza l'inesistenza dei fatti e l'inesistenza delle verità.
E des vérités.
E sconta solo quello che riesce a dire.
L'importance uniquement
se convince,
ce que tu arrives à dire, si c'est convaincant.
E soprattutto deve ancorarsi non a
e soprattutto cela doit s'ancrer non pas à une logique, à une raison.
Ma all'emotività delle persone.
Mais à l'émotivité.
Quindi Goebbels teorizza, cerca
Goebbels,
di comprendere, riferendosi al politico. Il politico deve comprendere.
Parlando della politica, le politico doit
lo stato d'animo
doit comprendre
delle persone
l'état
a cui si sta rivolgendo.
Des personnes à qui il s'adresse.
Manipolarlo.
et le manipuler.
Et l'autorise.
Il le théorise.
Et exactement aujourd'hui, la communication politique.
C'est exactement la communication politique d'aujourd'hui. Et,
anche quando si definisce antifascista, même quand on parle d'antifascisme, sulla syntaxe
se base
communicative
sur
de Goebbels.
La syntaxe communicative de Goebbels.
Mais justement, parce que lorsqu'on lit un autre Italien, par exemple Antonio Scurati, qui a consacré donc une trilogie à Mussolini, on voit que, hélas, cela fonctionne mieux sur les foules que la raison des intellectuels dont on parlait avec Zola.
Si, nel senso che il fascismo.
Oui.
Oggi è molto più attuale sull'aspetto.
Il fascismo è beaucoup plus présent sur l'aspect
comunicativo.
De la communication que sur l'économie.
Oggi toutes les organisations de dérivation
fasciste,
non hanno nessuna continuità col corporativismo, per esempio.
Continuità avec tout ce qui est les corporations.
Oppure il socialismo nazionale.
Ou avec le socialisme national.
Quello che ereditano dalla tradizione fascista.
Ce qu'ils héritent de la tradition fasciste, c'est la communication.
L'interpretazione e la banalizzazione.
L'interpretazione e la banalizzazione.
Delle dinamiche sociali.
Le dynamiques sociales.
E la creazione del nemico.
Et la création de l'ennemi.
La demolizione di qualsiasi figura che tende,
demolir
che
toute
tende a rendere più complessa la realtà.
Qui rend plus complexe la réalité.
E per dire Mussolini quando attacca il
Par
suo
exemple,
grande oppositore Giacomo Matteotti.
Attaque Giacomo Matteotti, son plus grand opposant.
La prima cosa che dice
la
è
première chose qu'il dit,
l'intellettuale in pelliccia.
L'intellectuel en fourrure.
Il socialista figlio di ricchi.
Le socialiste fils de riche.
Sono esattamente le parole che usano i populisti.
Exactement les mots utilisés par les populistes pour attaquer les intellectuels aujourd'hui.
Vous avez dit d'ailleurs que les dirigeants politiques italiens ciblaient des intellectuels comme vous, comme Michela Murgia, je ne sais pas qui est-ce d'ailleurs, si vous pouvez nous les présenter, Sandro Veronesi et donc Antonio Scurati, je viens d'en parler, parce qu'ils ont besoin, dites-vous, de compacter la haine de leur propre camp, parce qu'ils considèrent l'intellectuel comme un voleur par définition. En tant qu'intellectuel, vous volez, vous gagnez de vos opinions et vous gagnez de vos livres. Qui sont ces intellectuels italiens qui sont également ciblés par le gouvernement?
Beh, certamente c'è Michela Murgia, una scrittrice.
Michela Murgia, une écrivaine sarde.
Che è stata più volte bersagliata da Matteo Salvini.
Cible de Matteo Salvini plusieurs fois.
Che un candidato dell'estrema destra e ex direttore di giornali di estrema destra, Vittorio Feltri.
Vittorio Feltri, un ancien candidat d'extrême droite.
In ogni modo,
insulté aussi.
Fisicamente.
En attaquant physiquement.
Perché si è arrivati a questo nel dibattito italiano.
On en est là, au sein du débat italien.
Les
insultes pour l'aspect physique.
In mancanza di un'opposizione, in
Italia
forte.
Opposition forte in Italia.
Loro hanno bisogno di trovare
degli
intellettuali
de intellectuels
che per definizione sono odiati
par définition
dalla loro
détestés
comunità.
Par leur communauté.
Perché l'intellettuale, come dire, vive della sua opinione.
Vit de son opinion.
Quindi viene percepito come un non lavoratore.
Donc il est perçu comme quelqu'un qui ne travaille pas.
Viene considerato qualcuno che deve trovare a
on
tutti i costi la polemica.
Comme quelqu'un qui doit chercher une polémique à tout prix.
Per poter pagare, il suo
pouvoir
mutuo.
Payer son loyer.
Gli viene tolta ogni possibilità di credibilità.
On lui enlève toute possibilité de crédibilité.
Quando l'intellettuale spinge verso la solidarietà,
l'intellectuel pousse envers l'empathie, la solidarité.
Perché viene considerata autentica solo la ferocia, l'odio.
On considère authentique uniquement la haine.
L'odio, quando dichiari
la
che
haine,
il tuo unico obiettivo
déclare
è fare
che il seul objectif c'est d'encaisser, créer du profit.
Quello viene ritenuto credibile.
Là, on dit que c'est crédible.
Per esempio, noi siamo entrati nell'obiettivo delle destre.
Sommes dans le viseur des droites quand on a commencé à défendre les ONG qui s'occupaient des naufragés.
Quel est stato per loro la, diciamo, il momento in cui
pour
metterci un obiettivo
addosso? Où nous viser.
Basti pensare che Salvini
suffit de penser que Salvini
appena vado al governo
a déclaré
voglio fare
dès que je suis au gouvernement, je veux faire deux choses.
Fermare l'immigrazione.
Arrêter l'immigration.
E togliere la scorta a Saviano.
Et enlever la protection policière à Saviano.
Cosa che tra l'altro io vorrei vivere libero, non vedo l'ora.
Moi je voudrais vivre libre, j'ai hâte.
La scorta non è un merito, è una tragedia.
La, La protection policière n'est pas un mérite, c'est une tragédie.
Et lui facendo questo, non è vero che voleva togliermela, magari.
Lui ne voulait pas me l'en.
Lui voleva mettermi un obiettivo policière. Addosso.
Non, il voulait que j'ai un viseur sur moi.
Et questo è Salvini.
Ça, c'est Salvini.
Un uomo che si presentava con la maglietta della polizia.
Un homme qui se présentait avec un t-shirt de la police.
Durante i suoi comizi.
Lors de ses discours.
Una cosa che sarebbe impensabile qui.
Quelque chose qui en France est inimaginable.
Comment peut-on justifier le fait de vous retirer votre protection policière?
Nel caso di Salvini, il messaggio è:
ce qui est de
Salvini, se ti tolgo la scorta, significa che non vale più niente.
Si je t'enlève ta protection policière, tu ne vaux plus rien.
Che è esattamente il contrario di quello che è la verità.
D'ailleurs, l'inverse de la vérité.
La scorta è una valutazione che si fa.
La protection est une évaluation qui est faite.
Tre mesi.
Tous les trois mois.
E c'è un comitato che decide il tuo livello di rischio.
Un comité qui décide le niveau de risque.
Il fatto, per esempio, di un giorno, io spero di non averla più.
J'espère un jour ne plus en avoir besoin.
So che dovrò vivere in maniera prudente.
C'est que je devrais vivre de façon très prudente.
Diciamo, non significa non avere la scorta,
mais ne pas avoir
non avere più valore, come lui pensa.
C'est-à-dire de ne plus avoir de valeur. C'est...
E quando ti viene tolta la scorta, si fa in maniera riservata, non pubblica.
De façon très réservée, ce n'est pas public.
Quando perdi la scorta, per esempio, per molti mesi ti viene chiesto di continuare pubblicamente a dire che ce l'hai.
Quand on a plus de protection policière, il faut quand même dire qu'on en a une.
E lui, da ministro degli interni, queste cose non le sapeva.
Il ministro dell'intérieur, il n'était pas au courant de tout ça.
Ha parlato pubblicamente della sicurezza di un cittadino.
Il a parlé publiquement de la sécurité d'un citoyen.
E la scorta mia non è mica privata, è data dallo Stato.
Ma protection n'est pas privée, c'est une protection donnée par l'État.
Lui parlava di una decisione
dello Stato. Il parlait donc d'une décision de l'État.
E perché in Italia purtroppo
tutto
è diventato propaganda.
Malheureusement, tout est propagande.
Vous évoquez dans votre livre, Roberto Saviano, Crie-le, 30 portraits pour un monde engagé aux éditions Gallimard, des intellectuels, des journalistes, et puis il y a aussi une poétesse, Anna Akhmatova. Le chapitre s'intitule « Mi-nonne, mi-putain ». J'aimerais que vous nous la présentiez, Akhmatova.
Una poetessa di immenso valore.
Una poetessa d'une valeur immense.
A un certo punto della sua vita smette di scrivere.
Un momento de sua vita, arrête d'écrire.
Costretta dal regime staliniano.
Car le régime de Staline l'oblige ad arrêter.
Continuare a scrivere.
Elle doit choisir entre écrire.
O salvare la vita di suo figlio.
Ou sauver la vie de son fils.
Sia suo marito che suo figlio erano
stati arrestati. Son mari e son fils ont été arrêtés par les bolcheviques.
Ed era una poetessa talmente amata.
Une poétesse.
Talmente amata che quando cancella diciamo, la sua presenza pubblica,
quand sa présence publique est effacée, quand ses livres sont
in Russia si organizzavano
interdits de vente, en Russie,
incontri dove le persone recitavano le sue poesie a memoria,
récitaient par cœur ses poésies,
non lasciando traccia su nessun foglio,
ne laissant aucune trace écrite.
E fu una donna anche amata da un grande intellettuale,
aimée par un très grand intellectuel,
Isaiah Berlin, che a un certo punto comprende che frequentarla
l'avrebbe
in difficoltà,
l'avrebbe messa in difficoltà.
E ogni diciamo definizione di Akhmatova è difficile darla perché stiamo parlando.
C'est très dur de donner une définition.
Di una poetessa trasversale a ogni movimento.
Trasversale. De tous les mouvements poétiques
ci sono elementi di futurismo,
du XXe siècle, du futurisme,
naturalismo,
du naturalisme.
La définition que ne dà il segretario del Partito Sovietico,
la définition du secrétaire du Parti Soviétique,
che all'epoca credo fosse Zedov,
je pense que c'était Zedov à l'époque,
suora
la définit
et putain.
Mi non, mi putain.
Per cercare di dare il peggio che poteva essere detto all'epoca,
le pire qu'on pouvait dire à l'époque,
dall'opinione pubblica su di lei.
Par l'opinione pubblica.
In realtà lei seppe trasformare questo
giudizio. En réalité, elle a su transformer ce jugement.
In una sorta di lettura poetica.
Elle l'a transformé dans une lecture poétique.
E cioè in suora la sua passione per la mistica.
Non, cette passion pour la mystique.
Per tutto ciò che non è spiegabile con la ragione.
Qui n'est pas explicable avec la raison.
E l'espressione puttana.
L'expression putain.
Lei la come dire stravolge.
Elle la change.
E la rende come un omaggio alla
elle
sua libertà.
Un omaggio a sa liberté érotique
et à la sua, al desiderio come guida della sua
et
vita.
au désir comme guide de la vie.
Akhmatova est une poétesse extraordinaire, selon moi.
C'est une poétesse incroyable.
Injustement
oubliée.
Par rapport à molto lettres.
D'autres poètes.
Oui, hélas, la guerre en Ukraine pourrait la remettre au goût du jour, notamment Requiem. Mais j'ai appris sur la vie de cette femme, grâce à vous, Roberto Saviano, qu'elle avait été la maîtresse d'Ishaya Berlin, ce qui est quelque chose d'assez étonnant. Ishaya Berlin est l'un des grands philosophes du libéralisme anglais. C'est quelqu'un qui était plutôt du côté de la raison, ce qui n'était pas véritablement le cas d'Anna Akhmatova, qui était plutôt une femme incandescente. Un étrange couple, Roberto Saviano.
In certa misura sì.
Oui, dans une certaine mesure, oui.
Ma Berlin era completamente attratto dal coraggio.
Était attiré par le courage de cette femme.
Un grande charme.
Une femme qui avait un charme immense. Une femme très très belle.
Naso particolarissimo.
Un nez très particulier.
Lei considerava, no, la firma d'autore sul suo volto,
la signature sur son visage.
Berlin era attratto dal coraggio di questa
attiré
persona,
par le courage de cette personne,
che sapeva che per un verso
rischiava 10
anni di prigione,
rischiait 10 ans de prison pour avoir écrit une seule rime.
Era inimaginabile per un liberale come lui.
Inimaginabile pour un libéral comme lui.
E ne era completamente attratto.
Il était pensare attiré.
Che un verso, una rima,
che une rime
mettessero paura a un
pouvait faire peur
a un capo politico che gestiva un esercito di milioni di
une armée de millions de soldats.
Et j'aimerais terminer par un portrait de femme. Je ne la connaissais pas du tout. J'aimerais que vous nous la présentiez. Karina Bolianos. Qui est-elle? Pourquoi avez-vous décidé d'écrire sur elle, Roberto Saviano?
Perché una persona, un politico. Stiamo parlando quindi di una donna impegnata in politica in Centro America,
qui était très impliquée dans la politique d'Amérique centrale.
A un certo punto lei viene delegittimata perché viene diffuso un video privato.
On montre une vidéo privée.
Viene diffuso un video privato del tutto innocuo, cioè lei che parla
très innocente,
al suo fidanzato,
c'est elle qui parle à son copain,
mentre è, diciamo, svestita, ma semplicemente come dire, in intimo,
déshabillée mais en lingerie.
E basta un segnale del genere, un'immagine del genere per distruggere la tua immagine,
pour détruire l'image de quelqu'un.
Eppure non hai fatto nulla.
Pourtant, il n'y a rien de mal.
Non solo sei stata vittima di un saccheggio.
Victime. D'un pillage.
Et questa storia cosa racconta? Racconta che
nous raconte cette histoire.
La nostra privacy.
Elle nous raconte que notre vie privée est sacrée.
Ma non perché deve proteggere i nostri comportamenti.
Mais non pas car elle doit protéger nos comportements.
Diciamo strani o criminali.
Étrange ou criminel.
Quando qualcuno dice io non ho paura di essere ascoltato.
Quelqu'un dit je n'ai pas peur d'être sous écoute, d'être écouté.
Nulla di male.
Parce que je ne fais rien de mal.
Tutti possono mettere le telecamere in casa mia perché
on
non faccio nulla di male.
Peut mettre des caméras chez moi, je ne fais rien de mal.
Spesso si dice questo, no?
On le dit souvent.
Non ho paura delle intercettazioni.
Je n'ai pas peur d'être
ascoltatemi
sous écoute. Écoutez-moi donc.
Questa è una follia.
C'est de la folie.
Perché è possibile essere ricattati?
Car on peut être victime de chantage.
Anche semplicemente osservando la propria vita quotidiana.
Même en observant tout simplement
anche
la propria vita quotidiana, même si on ne commet aucun crime.
Tu puoi essere ricattato anche semplicemente
de chantage,
se io prendo un pezzo,
si, par exemple,
di una tua conversazione privata.
Je prends une conversation privée, la plus innocente possible,
e la metto come titolo di giornale.
Et je la mets comme titre de journal.
Quindi questo libro è anche, diciamo,
donc,
un tentativo
est aussi une,
a, di, come dire, chiedere al lettore,
dire, tentative de demander
di
au lecteur, aux lectrices,
il diritto
de défendre
a, come dire, al proprio
le
spazio.
Droit à sa propre vie privée, à son propre espace.
Merci beaucoup, Roberto Saviano, de nous avoir accompagnés. Crie-le, donc, pour 30 portraits pour un monde engagé aux éditions Gallimard. Vous étiez traduit ici même par Nicolas Bichon, que je remercie. Et l'on trouve également l'autobiographie inédite de l'auteur de Gomorrah, de vous, donc, Roberto Saviano, publié aux éditions Gallimard sous forme de roman graphique. Je suis toujours vivant avec Assaf Hanouka. Dans quelques secondes, on se retrouve dans les les matins de France Culture pour le point sur l'actualité. Le podcast Enquête d'idées repose sur une idée simple. Les idées, comme les personnages, ont une vie. Elles naissent, se transforment, se marient parfois. Enfin bref, vous avez compris l'idée.
Guillaume Erner.
Ce podcast est donc la première tentative de traiter une idée comme un organisme vivant et agissant. Et pour débuter cette série, j'ai choisi de traiter une notion qui est littéralement partout, conjuguée sous toutes ses formes, la résilience.
Enquête d'idées, la résilience, un podcast en 4 épisodes de Guillaume Erner et Éric Lancien sur franceculture.fr et l'appli Radio France.